Le Furet, une chronique de Guy Haddad.
Bonjour, une histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est la capture de Adolf Eichmann. En fait, qui est Adolf Eichmann? Il était chargé de planifier la logistique et le transport des 6 millions de Juifs jusqu'à la mort. Il s'est vanté d'être responsable de la mort d'au moins 5 millions de personnes en 1945. Il a déclaré « Je vais me jeter dans la tombe en criant et en riant parce que le sentiment d'avoir 5 millions d'êtres juifs et humains sur ma conscience est pour moi une source de satisfaction extraordinaire. » Plus monstrueux que ça, tu meurs. Alors son histoire commence ainsi avec l'aide de responsables catholiques. Eichmann a adopté le nom de Ricardo Clemente et il a navigué pour l'Argentine en 1950 avec sa femme et ses enfants qui l'ont rejoint 2 ans plus tard. Eichmann, comme tant d'autres nazis, a échappé à la justice pendant des décennies et il a d'abord été capturé par les troupes américaines après la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, il a masqué sa véritable identité, se faisant appeler par le pseudonyme Otto Eichmann. Il s'est échappé de la garde alliée et a passé 4 ans en Europe même, avec l'aide d'un réseau de nazis et de sympathisants nazis impénitents. Eichmann a travaillé en Allemagne, puis a passé du temps dans un monastère italien. En Argentine, Eichmann a peu fait pour cacher son identité. Bien qu'il fût officiellement le sénateur Ricardo Clemente, Eichmann a socialisé avec la population allemande, considérable à ce moment-là, à Buenos Aires, et a côtoyé les nazis argentins. Adolf Eichmann a travaillé dans une usine Mercedes-Benz locale, et le fils d'Eichmann était alors se considérait suffisamment en sécurité dans son quartier allemand bien établi pour s'appeler carrément de son vrai nom, Klaus Eichmann. Et ce glissement a fini et finalement conduit à la capture de son père. Incroyable mais vrai, mais dans les années 50, Klaus, donc le fils de Adolf, a commencé à sortir avec une jeune fille, Sylvie Eichmann. Et Sylvie Eichmann, c'est une fille de la région qui partageait ses racines allemandes. Elle vivait avec ses parents à Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, et principalement allemande, en abritant de nombreux nazis et sympathisants nazis. Son père, lui, Lothar Eichmann, était, sans l'avoir dit à ses enfants jamais, un survivant de l'Holocauste qui, par la suite, cachait son héritage juif par peur. Et voilà qu'un soir, lors d'un dîner à la maison des Eichmann, Klaus, le fils d'Adolf, se vantait du haut rang de son père, sans dire encore son nom, dans les SS, et déclara même « Cela aurait été mieux si les Allemands avaient fini leur travail d'extermination. » Là, le père de Sylvie ne dit rien. Il a orienté la conversation sur des sujets différents, mais dans ses pensées, il a dû tourner en rond, alors qu'il décidait déjà d'agir pour ramener Adolf Eichmann devant la justice des Juifs. Extraordinaire, mais personne, et y compris même sa propre fille Sylvie, ne savait que Lothar Eichmann était en fait à moitié juif. Il avait été emprisonné à Dachau à cause de ses croyances socialistes en 1936 et avait été aveuglé par les nazis. Après les pogroms anti-juifs de la Kristallnacht en 1938, Lothar émigre en Argentine avec sa femme chrétienne. Et d'ailleurs, après le dîner avec Klaus Eichmann, Lothar a tout de suite appelé un contact en Allemagne pour alerter les officiels que Adolf Eichmann était bien vivant et en Argentine. Cette nouvelle tombe entre les mains de Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis, et il décide de prendre des dispositions pour photographier discrètement des membres de la famille à l'enterrement du père de Adolf Eichmann. On a dit que le frère d'Eichmann, Otto, lui, avait une forte ressemblance familiale et qu'il n'avait pas de photo actuelle du fugitif. Donc, Wiesenthal a donné toutes ces photos aux agents du Mossad. Il faut savoir qu'en 1950, dans ces années-là, les Allemands étaient encore suffisamment antisémites et on n'a trouvé personne pour avoir suffisamment de volonté pour traquer l'architecte de l'Holocauste. Ce n'est que lorsque le procureur juif de Francfort, Fritz Bauer, a été informé que quelqu'un a décidé d'agir et de traquer Eichmann. Quelques mots sur ce Fritz Bauer, c'était le plus jeune juge du district du pays et une superstar juridique. Et lorsque les nazis ont définitivement pris le pouvoir en 1933, Fritz a été expulsé du champ juridique et emprisonné dans un camp de concentration pendant plus de 9 mois. Et ensuite, il a passé la majeure partie de la guerre au Danemark et en Suède et il est revenu en Allemagne en se jurant de traduire le plus possible de nazis en justice. Lorsqu'il a reçu cette espèce de pourboire, moi j'irais en français le bakchich au sujet de Adolf Eichmann, Fritz Bauer s'est tout de suite rendu compte que les efforts pour le poursuivre en justice, ici même en Allemagne, seraient vains à cause de l'antisémitisme qui y sévissait. Et en risquant même son arrestation pour ce qui constituait une infraction en fait de trahison, Fritz Bauer a fait savoir et directement au Mossad en Israël où se trouvait Adolf Eichmann. Le monstre sacré du Mossad de l'époque, Issachar Harel, a reçu toutes les transmissions de Fritz Bauer et alors que d'autres nazis de haut rang qui avaient échappé à la justice pendant des années. Et là, confronté pour la première fois à des informations crédibles sur l'emplacement d'Eichmann, Issachar Harel a décidé et a commencé à organiser une opération top secret qu'il a baptisée le Dibouk. Dibouk en yiddish, c'est le mauvais esprit. Ou plutôt, comme on dit chez nous, le Yetzer Hara. Issachar Harel s'entoure de nombreux membres qui étaient eux-mêmes des survivants de l'Holocauste et qui avaient vécu les horreurs de la torture et du génocide organisé par Eichmann, y compris Rafi Etan, haut responsable des services des renseignements israéliens, Peter Malkin également. Jeune garçon de 11 ans qui a réussi à s'échapper des camps de concentration et qui a rejoint la Haganah lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et bien qu'il ait grandi en Israël avant l'État, une grande partie de sa famille a été tuée dans l'Holocauste. Et avant de partir à la recherche de Eichmann, Peter Malkin a rendu visite à sa mère, qui pour la première fois lui a raconté exactement ce qui était arrivé à sa sœur aînée, Fruma. Elle vivait en Pologne avec son mari et ses enfants lorsque la guerre a éclaté et a été assassinée lâchement dans un camp à l'extérieur de Lublin. Une fois l'équipe secrète réunie et formée, ils se sont rassemblés dans le bureau de Issachar Harel. Harel prit une profonde respiration et commença ainsi. Je veux commencer par vous parler de mon cœur. C'est une mission national, dit-il, de premier degré. Ce n'est pas une opération de capture ordinaire, mais la capture d'un affreux criminel nazi, l'ennemi le plus horrible du peuple juif. Nous ne faisons pas cette opération en tant qu'aventurier, mais en tant que représentant du peuple juif et de l'État d'Israël juif. Notre objectif est de ramener et vivant en toute sécurité et en pleine santé, cette espèce de crapule dénommé Adolf Eichmann, afin qu'il puisse être jugé. La traque et la chasse commencèrent dans les jours suivants. En utilisant différents itinéraires, l'équipe s'est dirigée vers l'Argentine. Et comme ils attendaient dans l'obscurité qu'Eichmann revienne à la maison, ils s'inquiétaient, car normalement il était extrêmement ponctuel. Ce soir-là, Eichmann était légèrement en retard, ne parvenant pas à sortir de son bus habituel à 19h40. Le plan devenait dangereux, donc il était d'abandonner l'opération si Eichmann ne parvenait pas à se présenter avec le prochain autobus à 20h. Mais l'équipe attendue quelques minutes de plus jusqu'à ce qu'il quitte le prochain bus, effectivement à 20h05. Alors qu'il descendait dans la rue tranquille, l'équipe du Mossad se précipita, attrapa Eichmann et le plaça sur la banquette arrière d'une voiture en attente. C'était un moment émotionnel. Peter Malkin, lui, portait des gants parce qu'il ne supportait pas, comme il a dit, l'idée de toucher l'homme qui avait planifié et ordonné la mort de ses proches et de sa propre sœur. Voulant être sûr de leur coup, ayant toutes les informations, dans la voiture, ils ont inspecté Hermann pour s'assurer qu'il était le bon bonhomme. Ils ont localisé la cicatrice sous son bras avec son tatouage d'appartenance au SS. Ils ont même vérifié l'appendicectomie, la cicatrice du moins qu'il avait eue, et tous les dossiers correspondants. Donc, soupir de soulagement, ils avaient bien Hermann. Harel avait demandé spécifiquement de ne pas avoir confiance en aucune compagnie aérienne et uniquement la compagnie nationale El Al devait le ramener en Israël. Mais gros problème, El Al n'avait pas de stop en Argentine parce que les Argentins et Israël n'avaient pas signé d'accord de transport et de fret aérien. Mais la chance, c'est que la visite de Abba Eban à Buenos Aires pour célébrer le 150e anniversaire de l'Argentine, donc on a profité de cela, Eastman serait ramené en contrebande avec l'avion spécial de Abba Eban et vers Israël. Donc, le 20 mai 1960, l'Argentine fêtait son 150e anniversaire. Abba Eban, le grand chef d'État israélien, était en Argentine. Personne ne savait, même pas Abba Eban lui-même, que Hermann serait sous sédatif, introduit en contrebande sur le vol, déguisé en agent de bord, malade, et rapporté à Jérusalem. Et dès que l'avion a décollé et a quitté le territoire aérien argentin, l'équipe du Mossad à bord s'est levée pour sabler le champagne et se féliciter et dire la vérité enfin à tout l'équipage, sans préjuger, l'homme qu'ils apportaient chez eux n'était autre que Adolf Eichmann. Vous imaginez un petit peu la tête des Argentins et de l'Argentine, elle était tellement furieuse qu'Israël ait capturé un nazi sur son propre sol. Ils ont refusé de laisser El Al voler à nouveau vers le pays jusqu'en 2017, quand les vols réguliers ont finalement commencé. À Jérusalem, les autorités israéliennes ont jugé Hermann pour 15 crimes, dont des crimes contre l'humanité. Le procès a duré 57 jours et a été télévisé pour 37 pays dans le monde. 15 ans après l'Holocauste, 112 témoins ont témoigné contre lui. Et pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils entendaient des témoignages de première main sur ce qui était vraiment arrivé aux survivants de l'Holocauste. Le témoignage était choquant. Un caméraman qui a couvert le procès, qui avait perdu sa famille dans l'Holocauste, s'est évanoui quand un témoin a décrit comment il avait été abattu à plusieurs reprises par les soldats nazis et tombé dans le charnier. Un témoin polonais, lui, a décrit avoir vu une femme juive portant un bébé, fuyant les troupes nazies. Elle les a suppliés d'abandonner et d'épargner son bébé. Et des non-juifs, derrière une clôture proche, ont levé les mains pour attraper l'enfant. Alors, les nazis ont saisi le bébé dans les bras. Ils ont tiré deux fois sur la femme et ont pris le bébé dans les mains et l'ont, d'après le témoin, déchiqueter le bébé comme on déchire un chiffon. Oui, je sais que c'est horrible, mais c'est la vérité. La première ministre israélienne, Madame Golda Meir, a noté plus tard combien il était crucial de traduire en justice l'architecte de l'Holocauste. Et bien que rien ne puisse jamais et ne ramènera jamais le massacre à la vie, ben le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961 était, je crois, de dire Madame Golda Meir, un grand acte nécessaire de justice historique. Et enfin, dit-elle, je suis absolument convaincu que seuls les Israéliens avaient le droit et ont le droit de juger Eichmann au nom du judaïsme mondial et je suis très fier de l'avoir fait. Et comme a dit le juif poète hébreu Nachman Bialik, même le diable lui-même ne peut imaginer une vengeance adéquate pour la mort d'un seul enfant. Mais ceux qui sont restés en vie et les générations encore à naître méritent, sinon tous ces détails affreux, ce qui a été fait aux Juifs d'Europe et par qui. Hermann a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à mort et pendu le 1er juin 1962. Et pour éviter une vengeance quelconque, tous les gardiens de la prison de Hirschmann n'étaient autres que des gens d'Afrique du Nord et également des Yéménites. On ne voulait aucun juif ashkénaze de peur d'une certaine trahison. Donc il a été pendu le 1er juin 62, c'est d'ailleurs le seul détenu qui a jamais été exécuté dans le camp d'Israël. Son corps a été incinéré dans une boîte à incinération très spéciale qui a été fabriquée dans le plus grand des secrets par un ingénieur électricien, et ses cendres ont été dispersées dans la mer, très loin à l'extérieur des eaux territoriales d'Israël. Ils en ont fait un film qui s'est appelé et qui s'appelle Opération Finale, qui est sorti en juillet 2018 avec les acteurs Oscar Isaac et Ben Kingsley dans le rôle d'Adolf Eichmann, et ça raconte l'extraordinaire mission secrète du Mossad. Encore une fois, le film s'appelle Opération Finale. Mais si vous permettez juste une toute petite intervention personnelle, j'ai suivi tous les jours le procès de Adolf Eichmann et les conséquences non connues de la presse de ce qui se passait dans les forêts en Israël. On a retrouvé 3 ou 4 corps de personnes qui se sont pendues après avoir témoigné au tribunal contre Eichmann. C'était trop pour eux et ils se sont tout simplement suicidés. Excusez-moi, c'était un peu plus long que d'habitude, mais je crois que ça mérite une écoute particulière et j'attends de vos nouvelles.
Le Furet, une chronique de Guy Haddad.